Alors c'est la fête des rameaux, c'est la fête de la rue et de la foule, quand elle s'anime, quand elle bat le pavé, qu'elle fait entendre sa voix, la foule aux mille bouches, la foule qui fait les rois, certains jours, qui les défait aussi, d'autres jours. Aujourd'hui, Hosanna, vive le fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, voici notre roi. La foule à mille bouches proclame cela aujourd'hui. Demain, ce sera peut-être une autre chanson. Crucifie-le, à mort, libère Barabbas, cloue Jésus sur le bois, comme un bandit, comme un assassin, comme un terroriste. Faut-il écouter la foule ? Cette foule qui, parfois, dit la vérité, parfois même malgré elle. Cette même foule qui sait dire des horreurs, la foule à mille bouches, qui souffle le froid ou le chaud, qui sait célébrer la vie et aussi déchaîner la mort, le meilleur et le pire. La foule, c'est l'ambiguïté incarnée. Drôle de fête que celle de ce jour. Peut-être la fête la plus ambiguë de tout le calendrier liturgique. Qui est ce roi qu'elle acclame vraiment, cette foule ? Que voit-elle en Jésus ? Un messie militaire ? Un révolutionnaire patriote ? Un faiseur de miracles qui, d'un coup de baguette magique, certainement, va arriver à chasser l'envahisseur ? Jésus l'entend-il, cette foule ? Pourquoi donc se prête-t-il à ce jeu-là ? Ce jeu dangereux qui frôle le malentendu par tous les bords. Jésus ne risque-t-il pas lui-même de se laisser tenter, de se laisser galvaniser par cette ferveur populaire ? N'est-ce pas là une tentation diabolique, peut-être une des dernières tentations du Christ, la tentation de prendre le pouvoir, l'illusion politique d'établir un nouvel empire, un royaume de Dieu au sein du royaume des hommes. Une vraie démocratie chrétienne, enfin, qui sait ? N'est-ce pas dangereux pour Jésus lui-même, toute cette foule, tout cet engouement, cet enthousiasme, ce triomphe folklorique, certes, mais aussi pitoyable quand on connaît la suite ? Alors, comme pour nous alerter sur ces dangers et surtout les quiproquos probables, nos églises ont choisi de nous faire méditer parallèlement à cette entrée triomphale à Jérusalem, cet extrait de la lettre aux Philippiens que nous venons d'entendre, un hymne extraordinaire à l'humilité et à l'obéissance de Jésus. Texte extraordinaire, sommet théologique, et ce sont les théologiens qui donnent des mots à tout cela, pour parler grec, ils disent la kénose de Jésus-Christ. La kénose, ce dépouillement, le fait que le Christ accepte de se vider de lui-même, lui qui est l'incarnation de Dieu, se fait le plus vide des hommes. Lui dont l'autorité saisissante en a stupéfait plus d'un, lui qui chassait les démons, lui qui avait l'autorité sur les éléments, le vent et la mer, lui qui ressuscitait les morts, lui se fait tout petit, prend la condition du serviteur, et on pourrait aussi bien traduire la condition de l'esclave, pour devenir obéissant. Obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Du coup, entre le texte que nous avons entendu en entrée de ce culte et puis ce texte-là, quelle tension extraordinaire entre les deux. L'un qui exalte un triomphe et l'autre un dessaisissement radical. Et pourtant, ces textes ne se contentent pas d'être en tension l'un avec l'autre, mais je crois qu'ils s'interpellent, ils s'articulent l'un l'autre, ils s'éclairent mutuellement. Et l'enjeu est considérable. Parce que comment la foule, cette foule à mille bouches, peut-elle dire quelque chose du Christ ? Comment les espérances populaires, comment les rêves de liberté, d'autonomie, de victoire sur l'ennemi, qui sait, de revanche, peuvent-ils rencontrer la réalité d'une vie humble et offerte, une vulnérabilité assumée, et ce pardon scandaleux qui renverse tous les systèmes, tous nos systèmes, ces systèmes qui classent toujours les événements et les gens de manière binaire, les gagnants et les perdants, les croyants et les païens, les forts et les faibles, les gentils et les méchants, et je continuerai longtemps ainsi. Tout cela vole en éclats dans cette articulation de ces deux textes. Tout cela va voler en éclats tout au long de la semaine qui s'ouvre, cette semaine sainte, où on va voir tant de choses. On va voir des religieux, des gens chargés de partager des nouvelles qui font vivre, qui vont comploter pour obtenir la mort de quelqu'un. On va voir des disciples d'élite, des leaders parmi le groupe de ceux qui suivent Jésus, s'effondrer comme des lâches, devenir disciples de la peur bien plus que disciples de leur Seigneur, le reniant, le trahissant, le livrant aux mains des bourreaux. Une semaine incroyable où l'on va voir un Jésus dépourvu de toute puissance, déchiré d'angoisse à Gethsémané, pieds et mains cloués au poteau, muet devant ses juges. Je crois que le Jésus qui entre triomphalement dans Jérusalem aujourd'hui est bel et bien et n'est nul autre que ce Christ de la kénose. Et à la différence de la foule versatile, lui ne change pas. Il reste le même et il va rester le même tout au long de la semaine. Saint Paul, dans son hymne au Christ, dit qu'il a été obéissant jusqu'à la mort. Comprenons bien le sens de cette obéissance. Être obéissant, c'est d'abord et avant tout être écoutant, écouter jusqu'au bout. Et c'est bien d'ailleurs là tout l'enjeu de cette kénose, de cet évidement. Quand on est trop plein de soi, trop plein de choses, quand il n'y a pas de vide en nous, quand on est comblé de tout, alors il n'y a plus de place pour rien, même pas et peut-être surtout pas pour accueillir une parole. Si le premier homme, le premier Adam, s'est distingué par sa capacité à désobéir, à désécouter, à faire le sourd, ce qui qualifie Jésus, c'est précisément cette incroyable capacité d'écoute qui existe en lui. Jésus est un homme qui écoute. Un homme qui écoute de bout en bout de son ministère. Depuis le jour de son baptême dans le Jourdain, il sait entendre une voix jusqu'au jardin de Gethsémané. Il sait encore entendre quelque chose. Jésus écoute et il écoute l'Écriture. Il n'arrête pas de citer l'Écriture depuis le début, depuis le désert de la tentation, où il fait la preuve que non seulement il a lu, mais qu'il connaît, qu'il comprend, qu'il discerne le sens des Écritures. Et il peut batailler avec celui qui veut manipuler ces Écritures. Jésus écoute l'Écriture en profondeur. Jusqu'au début d'ailleurs de l'évangile d'aujourd'hui, quand il donne les instructions à ses disciples pour aller choisir ce petit âne exactement dans les termes que le prophète Zacharie avait choisi pour décrire le roi qui allait être un roi humble, un roi en mesure d'établir une vraie paix. Jésus écoute l'Écriture et il l'écoute pour l'accomplir, pour la traduire dans sa propre vie et dans la vie du monde. Mais Jésus ne se contente pas d'écouter l'Écriture. Il écoute encore, Bien sûr, il doit entendre les hosannas et les acclamations de la foule, mais il est capable d'écouter cela, et en dépit de toutes les ambiguïtés de cette foule criante, il peut entendre ce que cette foule dit malgré elle de prophétique. Mais il ne se laisse pas assourdir par ses cris. Après l'entrée triomphale, il saura quitter la foule pour retrouver l'intimité de ses disciples et les écouter à leur tour, poser leurs questions, exprimer leurs inquiétudes. Où vas-tu ? Par quel chemin pars-tu ? Comment saurions-nous le chemin du Père ? Connaissez toutes ces interrogations des disciples dans ces derniers moments avec Jésus. Il saura même écouter, entendre et écouter les imprudentes déclarations de fidélité à la vie et à la mort de Simon-Pierre. Jésus sait écouter. Il sait écouter aussi ses propres angoisses. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Il sait l'entendre, cela. Et il sait aussi l'affronter et dépasser cette angoisse en écoutant plus encore, avec constance et fidélité, la volonté de son Père. Non pas ma volonté, mais la tienne. Il saura écouter jusqu'à la croix. Et ce qui est extraordinaire, il saura même écouter ce qui est inaudible à nos oreilles le plus souvent. Sur la croix, il saura aussi écouter le besoin de pardon, même inexprimé, de ses bourreaux. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il saura aussi entendre le cri de son compagnon d'infortune, cet autre supplicié, qui sur la croix lui demande « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Aujourd'hui même, je te le dis, tu seras avec moi en paradis. Jésus écoute, il écoute jusqu'au bout, il écoute jusque sur la croix. Et il a bien fallu qu'il s'évide sérieusement de toute autosuffisance, de tout trop-plein d'orgueil pour avoir autant de place en lui-même, pour pouvoir accueillir toutes ces paroles, pour pouvoir écouter ainsi. Quel roi étonnant, celui qui entre aujourd'hui dans Jérusalem. Il est monté sur un petit ânon. Un ânon, nous dit l'Évangile, nous précise cela, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Curieux cette précision. Aucun homme ne s'est assis sur ce petit ânon. C'est aujourd'hui seulement que je crois comprendre pourquoi. Tout autre roi, tout autre homme rentrant ainsi à Jérusalem aurait été trop pesant, trop lourd, trop plein de lui-même pour être porté par un si petit âne. Tout autre roi que lui aurait eu trop de certitude, trop d'arrogance, trop d'ambition et de suffisance pour pouvoir être supporté par une monture aussi frêle que celle-ci. Mais Jésus est un homme libéré de tout cela. Il a fait de la place en lui-même. Il y a un genre de légèreté qui accompagne cette disponibilité véritable à écouter. Si bien que Jésus est un roi qui n'écrasera personne, pas même un si petit ânon. Alors mon frère, ma sœur, si tu ne te sens aujourd'hui pas très costaud, si peut-être aujourd'hui tu as l'impression de ne pas comprendre grand-chose aux choses de Dieu, à la royauté de Jésus, à ce que peut vouloir dire être témoin du Christ aujourd'hui, être porteur du Christ au milieu de la foule d'aujourd'hui, foule toujours aussi ambiguë qu'autrefois. Si tu as l'impression parfois de penser ou de faire des âneries, de n'être absolument pas taillé pour l'aventure de la foi et du témoignage. Alors aujourd'hui, regarde ce roi qui vient vers toi. Regarde ce roi paradoxal, homme-Dieu, qui a vécu la kénose, qui s'est tellement vidé de lui-même pour faire de la place aux paroles des autres et à la parole du tout autre, qu'il peut envoyer ses disciples pour te délier, pour te détacher, pour te libérer, parce qu'aujourd'hui, il a besoin de toi. Oui, aussi étonnant que cela paraisse, aujourd'hui, Jésus, au moment où il entre en roi, a besoin d'un petit âne qui n'a jamais porté personne encore. Et il peut grimper sur ton dos, sans t'accabler. Il peut effectivement entrer dans ta vie et dans ta ville, être roi pour toi et pour le monde, sans t'écraser sous son poids. Parce que ce roi étrange s'est fait écoutant jusqu'au bout. Ce roi que tu peux porter, même si peut-être tu n'as jamais eu la force de porter quiconque d'autre, aussi petit ânon que tu sois. Alors peut-être comme jadis un autre âne, à la surprise générale, tu ouvriras la bouche. Et toi aussi, tu diras « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Que celui qui a des oreilles, petites ou grandes, entende. Amen.